à l'écoute de RFI et je vous en remercie. Il est 1h en temps universel, 2h ici à Paris.
Mathis Limano.
Dans votre journal, l'élection de Donald Trump et ses conséquences qui inquiètent le monde, notamment à Genève, au sein des Nations Unies. On s'y rend dès le début de ce journal. À suivre, la guerre au Soudan et la situation chaotique dans la ville d'El Fasher, le point sur la situation humanitaire. Et puis en Allemagne, à un peu plus de 3 mois des prochaines élections, Olaf Scholz a défendu ce mercredi son bilan devant les députés du Bundestag. Donald Trump reçu ce mercredi par Joe Biden. Le président sortant lui a souhaité un bon retour à la Maison-Blanche, retour qui ne se fera qu'en janvier avec les mains libres. Car après avoir repris le Sénat aux démocrates, le parti républicain garde le contrôle de la Chambre des représentants. D'ici janvier et sa prise de fonction, Donald Trump continue d'étoffer son équipe. Après la nomination hier d'Elon Musk au ministère de l'efficacité gouvernementale, ce mercredi c'est le très fidèle Matt Gaetz qui a été désigné à la justice. La diplomatie américaine sera, elle, représentée par le sénateur Marco Rubio. Enfin, c'est Tulsi Gabbard qui prend la tête du renseignement. Cette transfuge démocrate s'est souvent illustrée en soutenant la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Des profils radicaux, donc, qui inquiètent de nombreux pays. Aux Nations Unies, on redoute particulièrement le retour d'une administration Trump, car dans l'esprit du milliardaire, l'ONU est le plus souvent perçue comme un obstacle aux intérêts américains. RFI Genève, Jérémy Lanche.
Le premier mandat de Donald Trump, c'est le retrait du Conseil des droits de l'homme, accusé de malmener les États-Unis et d'alliés israéliens, le retrait de l'OMS, soupçonné de complaisance à l'égard de la Chine, la politique de la chaise vide dans tout un tas d'instances. Alors même présidence, même conséquence, Jussi Hainmaki, professeur de politique internationale et spécialiste des États-Unis au Graduate Institute de Genève, le croit.
I think you're going to see withdrawals.
On va voir les États-Unis se retirer ou en tout cas prendre de la distance avec plusieurs institutions. En particulier l'OMC. Vous savez, c'est la phrase de Donald Trump. Les barrières douanières sont le mot le plus merveilleux du dictionnaire. Donc oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Les États-Unis vont être plus absents à l'ONU.
Et la nomination d'Elise Stefanik au poste de future ambassadrice à l'ONU plaide en ce sens. Elle milite pour une réévaluation complète du financement américain de l'ONU.
Les Européens doivent réaliser que ce n'est pas juste à cause de Trump. C'est devenu une tendance de la politique américaine, que ce soit à l'OTAN ou à l'ONU. Les États-Unis estiment qu'ils n'ont pas à payer pour tout le monde.
L'enjeu est énorme pour l'ONU. Washington est le premier contributeur au budget devant la Chine. La Chine qui avait largement profité du premier mandat de Donald Trump pour accroître son influence et sa présence aux Nations Unies. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
La Chine dont le président Xi Jinping va s'entretenir ce samedi avec Joe Biden. Troisième rencontre en personne entre les deux hommes et la dernière pour le président américain. Rencontre à Lima, au Pérou, en marge du sommet Asie-Pacifique. Et l'élection de Donald Trump qui inquiète, vous l'entendiez, notamment au Moyen-Orient, où l'on connaît déjà le nom du futur ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, ancien pasteur et fervent défenseur des colonies israéliennes. Israël qui a ciblé la banlieue sud de Beyrouth dans la soirée, 4e série de frappes en 24 heures. Au sud Liban, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques de ces dernières semaines contre les casques bleus, appelant toutes les parties à respecter la sécurité des soldats onusiens. Pour sa part, le Hezbollah dit avoir visé, je cite, un rassemblement de forces ennemies à Sassa, dans le nord d'Israël, avec une salve de missiles. Et puis au Soudan, cela fait sept mois que les combats font rage dans la ville d'El Fasher. La capitale du Darfour Nord est la dernière grande ville de la région encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. Elle est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide qui tentent d'en prendre le contrôle depuis 7 mois donc. Se pose alors la question de la situation humanitaire à El Fasher. Une grande partie de la population a fui vers le camp de déplacés de Zamzam à 8 km de là, avec un espoir, trouver de quoi se nourrir. C'est ce que Justine Musique-Picma l'explique, elle est directrice régionale de l'ONG Solidarité Internationale.
Le siège d'El Fasher continue encore aujourd'hui. Chaque axe est tenu par différents groupes, RSF, SAF, Joint Forces, qui se trouvent sur les axes et qui chacun crée le fameux blocus autour d'El Fasher. En termes de nourriture au quotidien, ils ont accès à un micro-marché qui a un peu de nourriture à l'intérieur. Cependant, c'est extrêmement cher. Donc les gens qui n'ont plus les moyens du tout sont partis sur Zamzam pour trouver de l'aide humanitaire plus directe. L'accès humanitaire est bloqué. Les rares personnes qui arrivent à travailler sont des équipes locales qui restent sur place malgré les bombardements et des attaques. Il n'y a aucun camion qui est arrivé sur El Fasher. On a quelques camions de UNICEF qui sont arrivés jusqu'à Zamzam, avec ce qu'on appelle du supplément nutritionnel pour les malnutris. On est vraiment sur un tout petit niveau de réponse. Le peu de nourriture qui arrive sur El Fasher, c'est les commerçants d'autour. Koulbouz, qui est une ville qui est juste en dessous d'El Fasher, est un grenier de la zone. On est en plein milieu des récoltes. Donc oui, il y a des commerçants privés qui passent, mais on parle de centaines de tomates et en centaines de légumes, loin d'être suffisant pour une réponse humanitaire. Et de toute façon, les prix sont tellement faramineux que la réponse est improbable. C'est une crise où des pays membres des Nations Unies doivent se réveiller. Un blocus sur les axes aujourd'hui pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre des endroits comme Zamzam ou El Fasher devrait plus être une réalité en 2024.
Justine Musique-Picmal, directrice régionale de l'ONG Solidarité Internationale, au téléphone d'Alexandra Banjon. En bref, deux fortes explosions entendues il y a un peu plus d'une heure près de la Cour suprême du Brésil. Ça se passe dans la capitale, Brasilia. La police rapporte un décès sans pour le moment expliquer l'origine de ces explosions. Le Brésil qui accueille le sommet du G20 à Rio en début de semaine prochaine. Sommet où pourrait être signé l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, l'alliance des pays sud-américains. C'est dans ce contexte que le Premier ministre français en déplacement à Bruxelles a redit son opposition à cet accord. Mais l'Union européenne semble déterminée à le signer d'ici la fin de l'année, bien que les agriculteurs français soient vent debout et dénoncent une concurrence déloyale. Pour la viande bovine, par exemple, c'est près de 100 000 tonnes de bœuf qui entreraient en France avec des normes bien moins strictes que celles produites au sein de l'UE. Patrick Benesi, président de la Fédération nationale bovine et vice-président d'Interweb, un lobby de la viande.
Peut-être le pire pour nous, c'est la mise en confrontation d'un modèle respectueux de l'environnement vis-à-vis d'un type de production qui ne respecte absolument aucune règle qui est aujourd'hui obligatoire dans l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, les activateurs de croissance, ce n'est pas les hormones, c'est quelque chose en plus des hormones qui sont autorisées, les activateurs de croissance et des antibiotiques en permanence dans la ration. C'est également les farines de viande, interdites également chez nous. Et donc, dans ce sens-là, on ne peut même pas imaginer que cet accord puisse être signé. On a une Commission européenne qui veut nous mettre des normes supplémentaires à nous, de bien-être ou autre, alors que ça n'existe même pas en Amérique du Sud. Ça engage également l'ensemble de notre filière. C'est-à-dire il y a quand même 500 000 emplois et qui dépendent très directement de la viande bovine dans les abattoirs, chez les découpeurs, chez les distributeurs. C'est 500 000 emplois, donc ça va très très loin.
Patrick Benesi, président de la Fédération nationale bovine et vice-président d'Interbev, un lobby de la viande au micro d'Anne Verdaguer. En Allemagne, et à un peu plus de 3 mois des prochaines élections, Olaf Scholz a défendu ce mercredi son bilan devant les députés du Bundestag. Entré en campagne électorale, le chancelier social-démocrate très combatif a notamment défendu sa position sur l'Ukraine, qui sera, selon lui, l'un des points forts de la campagne. Nathalie Versieux.
Fortement chahuté depuis les rangs du parti d'extrême droite AfD, Olaf Scholz a défendu avec un ton inhabituellement passionné sa politique ukrainienne.
Nous devons veiller à ce que l'Ukraine, en tant que nation démocratique et souveraine, ait de bonnes perspectives d'avenir. Nous avons la responsabilité qu'elle ne soit pas abandonnée. Mais je le dis expressément, je suis opposé à ce que les armes que nous livrons soient utilisées pour frapper loin dans le territoire russe et je ne changerai pas de position sur la livraison de missiles de croisière allemands.
C'est indirectement le soutien à l'Ukraine qui a précipité la chute de la coalition. Face au Bundestag, Olaf Scholz explique ne pas avoir voulu financer l'aide à l'Ukraine sur le budget au détriment des retraites ou de l'investissement. Favorable à davantage de dettes, il s'est opposé au refus catégorique de son ministre libéral des Finances, adepte lui de l'orthodoxie budgétaire et qui l'a finalement limogé. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et puis c'est la 5e fois que la justice du Groenland se prononce sur son cas depuis le mois d'août et 5e fois qu'elle prolonge la détention de Paul Watson. Le militant écologiste canadien va rester en prison au moins jusqu'au 4 décembre, en attendant que les autorités danoises décident ou non de son extradition vers le Japon. Paul Watson, fondateur de l'ONG de défense des baleines Sea Shepherd, est accusé par Tokyo d'avoir causé des dommages corporels et matériels à un bateau baleinier japonais et à son équipage en 2010. RFI, les 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.